L'art n'est-il qu'un loisir? A-t-on à se libérer du passé? Faut-il s'interdire certaines techniques? 1800 élèves de terminale ont passé le bac philo ce matin. Retour à la normale sur les vols d'Aircal. Ces deux derniers jours, plusieurs vols ont été annulés en raison de manque de personnel. C'est aujourd'hui le GIS Day, une journée internationale de partage des systèmes d'information géographique. Pour la première fois, elle est relayée dans un établissement scolaire, au collège de Tuban. En métropole, les musulmans de France se radicalisent progressivement. C'est l'enseignement d'un sondage IFOP qui fait beaucoup parler. Boualem Sansal est en France. Le retour de l'écrivain franco-algérien libéré la semaine dernière va peut-être apaiser les relations tendues entre Paris et Alger. Dans la page sport, nous parlerons tennis avec l'élimination de la France en quart de finale de la Coupe Davis. Et puis en futsal, avec une victoire et deux matchs nuls, les Calédoniens de la SPTT restent en tête de leur groupe aux Océania. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par le bac de philosophie. C'est une date toujours importante dans le calendrier des examens de fin d'année pour les élèves du cycle secondaire et notamment de terminale. Le fameux bac philo était donc au menu ce matin pour les candidats en classe de terminale générale et technologique. Nous allons en parler dans un instant avec Catherine Rezaï, qui est chargée de mission philosophie au vice-rectorat. Mais avant cela, Michael Juneski, vous êtes allé à la rencontre des candidats bacheliers ce matin.
A-t-on à se libérer du passé? L'art n'est-il qu'un loisir? Faut-il s'intéresser interdire certaines techniques ou encore cherchons-nous toujours à connaître la vérité? Voilà certains des sujets qui étaient donc proposés sur lesquels les candidats au baccalauréat concernés par la philosophie ont dû plancher ce matin. Évidemment, si la formule de l'examen n'est plus celle d'avant, avec désormais une grande partie de la note en contrôle continu et des épreuves anticipées qui ont déjà débuté, le jour du fameux bac de philo revêt tout de même encore un caractère bien particulier. C'est la première grande épreuve du baccalauréat, synonyme de fin de sa scolarité au lycée. Illustration donc ce mercredi matin à la sortie du lycée La Pérouse à Nouméa.
Oh, ça s'est très très bien passé. Moi j'ai pris le sujet sur la technique. J'ai fait mes 4 pages très rapidement. J'ai bien suivi mon développement et tout. Donc bah franchement, j'ai géré de fou.
Oh, c'était plutôt quand même dur parce que je suis pas trop philosophique.
Bah, moi ça a été. Hein. Enfin, je sais pas trop. Moi j'ai pris la technique.
Vous l'avez bien senti?
Oui, ça allait.
Moi, j'ai pris le 3 avec le texte et les questions.
Ah, confiant?
Ça va.
On verra.
On attend les résultats.
Et ben, moi, j'ai choisi la première et normalement, normalement, j'ai bien répondu. Ça va. On verra. Je m'avance pas.
Facile, en vrai. On avait la technique, la vérité. Moi, j'ai pris direct le premier, la technique. Bah, je l'ai bien révisé, celui-là.
C'est subjectif, donc ça dépend vraiment du correcteur. En fonction de ce qu'il pense, la note peut varier, quoi.
Je m'en suis bien sorti. Il y a des sujets que j'avais bien révisés, que je trouvais faciles. Et j'ai bien géré la matinée. J'ai pris l'option, le sujet 3, l'option où on répond à nos questions nous-mêmes. C'est la facilité et c'est pour assurer une bonne note, pour pas faire de hors-sujet.
Je pense que je sortirai un peu à l'avance, mais je pense que ça s'est bien passé en vrai. C'est sur un texte de Arthur Schopenhauer, là, et après, c'est différentes questions et tu réponds, et voilà.
On va dire que j'ai essayé de me débrouiller. Je pense que, voilà, avec mes connaissances, tout ça, ça va en vrai. J'aurai au moins dans la moyenne.
J'ai écrit tout ce que j'avais à dire.
Dans quelle filière, vous?
En général, c'était à la feuille. A-t-on à se libérer du passé? Donc moi j'ai pris ça. Et l'autre c'était l'art n'est-il qu'un loisir?
Bac de philo, ça fait quoi?
Bah on se rend compte que c'est la fin du lycée quoi.
Et voilà pour ces quelques réactions. Plus de 1800 candidats qui étaient concernés donc par cet examen ce matin d'une durée maximale de 4 heures pour tous les lycéens en classe générale et technologique en terminale en Nouvelle-Calédonie.
Merci Michael. Nous sommes donc avec Catherine Rezaï qui est chargée de mission philosophie au vice-rectorat. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation dans ce jour si particulier pour les élèves de terminale. Ce bac philo, c'est toujours un petit peu une montagne à gravir, on a l'impression, pour les élèves.
Oui, alors c'est toujours la matière qui ouvre le bal des épreuves. Et effectivement, c'est une matière qui est toujours un petit peu impressionnante parce qu'il ne suffit pas d'avoir appris son cours avec sérieux pour réussir l'épreuve.
Qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut réfléchir?
Alors, il faut déjà prendre du recul et lire attentivement le sujet. Prendre le temps de l'analyser, tous les mots comptent, et à partir de cette analyse, essayer de mettre en forme un problème, c'est-à-dire il n'y a pas une réponse évidente qui s'impose, il y a plusieurs réponses possibles, la question est complexe, on formalise un problème et on met en place une argumentation informée afin de résoudre ce problème qu'on a soi-même posé.
Qu'est-ce qui est jugé par les correcteurs au final? C'est l'accompagnement de la pensée de l'élève, de voir son développement, ou c'est la structuration du texte? C'est, il faut avoir juste par rapport au thème proposé?
Alors, il y a plusieurs critères d'évaluation, bien sûr, qui vont rentrer en compte. Alors, on va bien sûr valoriser le sérieux de la copie, les efforts faits par l'élève à la fois pour prendre en compte la singularité du sujet, pour réinvestir ses acquis, la cohérence de l'argumentation, la précision du travail conceptuel qui est effectué. Tout ça va permettre de situer la note entre 0 et 20.
Alors, il y a aussi un choix que doit faire l'élève en arrivant lorsqu'il prend connaissance des sujets. Il y a des thèmes sur lesquels il doit faire une dissertation philosophique et puis aussi une explication de texte. Ce sont deux exercices très différents. L'un n'est pas plus simple que l'autre.
Alors, les deux exercices, finalement, mobilisent les mêmes compétences d'analyse, de réflexion, de rédaction et d'argumentation. Simplement, là où on a un texte très court dans le sujet de dissertation, on a un texte très long dans le sujet texte. Donc, pour des élèves qui ont une belle habitude de lecteur, le choix du texte peut être pertinent. Si ce n'est pas le cas, si l'élève a été sérieux, qu'il a du mal à comprendre ce qu'il lit, la dissertation lui assure finalement une note correcte.
Alors on va prendre quand même plusieurs thèmes pour voir avec vous comment il aurait été possible dans l'idéal de les développer, notamment dans la filière générale. L'art n'est-il qu'un loisir ? On va s'intéresser nous à l'autre thème, a-t-on à se libérer du passé ? C'est une question qui fait référence à l'actualité, pas du tout. C'est ça aussi la philosophie, c'est d'introduire peut-être des notions qui sont liées à la vie courante et à la vie des gens.
Alors, les enjeux, bien sûr, sont toujours actuels. Maintenant, le sujet s'inscrit dans un programme et ici, hein, peut-être, il y a deux notions phares, le temps d'un côté et l'inconscient de l'autre. Donc, a-t-on à se libérer du passé ? Ce qui est paradoxal, c'est que le passé n'est plus, il n'est pas présent et en plus, on ne peut pas le changer. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se libérer de quelque chose qui n'existe pas ? C'est peut-être le premier réflexe que peuvent avoir les candidats. Dans ce « a-t-on », il y a en même temps un impératif. Ce n'est pas « est-ce qu'on pourrait le faire ?» C'est « est-ce qu'on aurait peut-être le devoir ?» Et « est-ce que ce serait peut-être notre responsabilité de s'en libérer ?» La question, ce serait « pourquoi s'en libérer ?» Ça supposerait qu'on est finalement prisonnier de notre passé. Alors, on peut ici développer un axe historique, un axe sociologique, un déterminisme social, et aussi, bien sûr, mobiliser tous nos acquis sur l'inconscient. Peut-être plus on ignore notre passé et plus il nous détermine. Et c'est à partir de là qu'on pourrait développer un certain nombre de pistes pour expliquer dans quelle mesure on peut s'en libérer, dans quelle mesure peut-être il faut l'accepter, dans la mesure où il est là. Et si on l'accepte, comment se réconcilier éventuellement avec lui.
Est-ce que dans le programme que suivent les élèves en philosophie, il y a des auteurs auxquels ils pouvaient faire référence sur ce texte, sur cette question particulière ?
Alors, sur la question du temps, ils pouvaient faire référence à Saint-Augustin pour montrer cette existence paradoxale du passé qui finalement n'existe que dans notre esprit. Peut-être. Avec Freud, il pouvait montrer l'importance des déterminismes de l'inconscient. Peut-être il pouvait penser à Bourdieu pour montrer aussi comment c'est la connaissance des déterminismes qui nous en libérera.
Alors, on parlait un tout petit peu avant l'émission, Catherine Rézaillie. J'ai bien compris que si vous aviez dû choisir, vous, en filière générale, vous auriez peut-être pris le texte de Platon, extrait de La République, sur la justice. C'est un texte qui vous semble très important.
Oui, c'est un très, très beau texte. Alors, Platon, ce sont des dialogues, donc il y a une écriture qui, formellement, peut être un petit peu déstabilisante pour l'élève, mais précisément parce que c'est dialogué, les enjeux sont très vivants. Et ce texte intéresse tout le monde parce que c'est un petit peu notre expérience quotidienne. Comment ça se fait qu'on n'a pas du tout envie d'être juste ? Et qu'on est juste que parce que on sera bien vu si on est juste, on aura des récompenses. Mais si on peut commettre l'injustice sans être aperçu, finalement, on préférerait tous être injustes. Donc le texte pose cette question, est-ce qu'on pourrait finalement apprendre à aimer la justice et être vraiment vertueux ? Est-ce que peut-être il y a des choses à apprendre aux enfants pour qu'ils aiment la justice et pas juste qu'ils aient envie d'avoir des récompenses quand ils se comportent bien ? Donc c'est vraiment un enjeu du quotidien.
Au final, la copie, qu'elle soit liée à un thème ou à une explication de texte, doit ressembler un peu à la même chose. Il faut exposer le problème, il faut montrer qu'on a compris le développement qu'on voulait suivre.
Oui, tout à fait. Formellement, d'un petit peu loin, on ne reconnaîtrait pas une copie d'explication, une copie de dissertation, puisqu'on a une introduction, des parties, une conclusion dans chaque cas. Et ce sont les mêmes gestes et les mêmes compétences qui sont évaluées dans les deux types d'exercices.
Allez, encore un dernier thème, si vous le voulez bien. Faut-il s'interdire certaines techniques ? Comme par hasard, c'était un thème proposé aux filières plutôt technologiques. Ça amène à s'interroger sur l'évolution technologique de notre monde ?
Bien sûr, le sujet ici interroge l'articulation entre le progrès technique et d'autre part la morale et la politique. Est-ce que dès qu'on sait faire quelque chose et qu'on peut le faire, on a le droit de le faire ou est-ce qu'il faut encore réfléchir à l'usage de nos techniques ? Alors le piège ici, c'était de dire la technique est mauvaise, les techniques elles sont neutres moralement et c'est à nous finalement d'être responsables et de déterminer l'usage qu'on doit en faire.
Quand on dit faut-il s'interdire, c'est bien que la question s'adresse à la personne qui est concernée par le texte.
Alors, il y a une dimension politique plus large et on pourrait interroger justement les institutions, la législation, et pas raisonner seulement en termes de choix individuels et moraux.
Une toute dernière question, beaucoup plus générale, Catherine Rezaï. La philosophie est une manière qui est toujours enseignée, même si elle est considérée par de nombreux élèves comme quelque chose de très facultatif. Pourtant, apprendre à maîtriser sa pensée, apprendre à l'enrichir, apprendre aussi à l'exprimer, c'est quelque chose d'important dans le parcours d'un élève et d'un homme, quel que soit le choix professionnel qu'il fera plus tard.
Oui, alors c'est vraiment une spécificité de l'enseignement français, hein, d'offrir à la plupart des élèves cet enseignement, qui est important, quelle que soit l'appétence que l'on a pour la matière, à la fois pour apprendre à réfléchir de façon analytique, apprendre à maîtriser sa propre pensée, et les compétences développées en philosophie peuvent être utiles dans le supérieur pour tout parcours qui exigerait finalement des qualités de rédaction et de réflexion.
Catherine Rezaï, chargée de mission philosophie au vice-rectorat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur ces sujets philo du bac 2025. Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
La suite de ce journal est la société Lefroy écrit son avenir à Païta. Après la destruction de son site historique à Montravel en mai 2024, le fabricant de boissons a décidé de reconstruire son usine dans la zone industrielle de Païta. Le chantier doit débuter en 2028 et coûter 9 milliards de francs, alors qu'une reconstruction à l'identique de l'outil de production était estimée à 14 milliards. Pour autant, ce n'est pas une usine au rabais, nous a dit Christophe Badal, le président de la société Lefroy. Il était ce matin notre invité à 7h30.
Elle va être beaucoup mieux. Elle va simplement être très, très optimisée parce qu'on a dû le faire, parce qu'on savait très bien que le coût de reconstruction à l'identique, ça ne fonctionnerait pas dans aucun scénario. Mais en fait, elle va être beaucoup mieux parce que, bien que nous investissions par le passé à peu près 300 millions par an dans l'ancien site, on investissait en renouvellement des technologies qui existaient. Or, la science progresse, la technique progresse chaque jour, et on va avoir accès à des processus, à des équipements qui sont plus économes en énergie, qui sont plus économes en eau, qui sont plus économes en matières premières. On va avoir accès à des techniques qui se développent petit à petit, qui permettent de récupérer de la chaleur fatale. J'entendais M. Lefebvre, il vient de commissionner une nouvelle unité de production. Eh bien, il récupère des calories à un endroit de son usine et les amène à un autre endroit, ce qui évite de les produire une seconde fois. S'il y a des techniques qui permettent de l'adapter à nos processus, eh bien, nous allons le faire aussi. Et tout ça, mis bout à bout, eh bien, c'est un site qui est plus économe et plus efficient.
Hier, la société Lefroy a réuni ses partenaires pour une présentation du projet. Elle devra donc investir 9 milliards de francs dans cette nouvelle usine, une somme qu'il va falloir financer.
Les assurances vont pas nous aider beaucoup sur ce point-là parce que c'est depuis très longtemps très difficile d'assurer des industries en Nouvelle-Calédonie et nous étions bloqués par ce qui s'appelle des limites contractuelles d'indemnisation. Donc on atteignait les limites contractuelles sur à peu près tous les sujets. Tant et si bien qu'à la fin, on recevra peut-être 15% du montant total des destructions et des pertes. Et ces fonds-là, ils ont été destinés en priorité aux banques. On ne pouvait pas laisser courir des emprunts sur des matériels qui ont disparu. Et puis le reste a été absorbé par les pertes d'exploitation qui ont suivi l'incendie. Par contre, on aura sans doute accès aux mécanismes de défiscalisation locale et nationale. On sait que la défiscalisation nationale est un petit peu battue en brèche en ce moment à l'Assemblée nationale. Pour nous, ça, c'est effectivement des éléments qui sont absolument déterminants. Heureusement, quelque part, on n'a pas besoin de déposer le dossier aujourd'hui. Sinon, on serait sans doute très contraint. Peut-être que c'est une bonne chose pour nous de ne le déposer que l'année prochaine.
Les études techniques, industrielles, environnementales et réglementaires vont se poursuivre l'an prochain. Le plan de financement et l'obtention des autorisations est prévu pour 2027. En vue d'un lancement des travaux en 2028, il devrait s'étaler sur 24 mois selon les projections de la société.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Les entreprises détruites lors des violences insurrectionnelles qui choisissent de reconstruire ont-elles, selon vous, raison de le faire? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier. 78% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la décision du PADICA de quitter le FLNKS va affaiblir le camp indépendantiste. Ils sont 22% à penser que ce ne sera pas le cas. Il est 11h44, une première pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Ah, ces assurances.
J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, Agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Justice avec ce procès aux assises de Nouméa. 25 ans de prison minimum ont été requis par l'avocat général à l'encontre de l'homme jugé depuis hier pour assassinat sur son oncle. En avril 2022, alors qu'il était alcoolisé, il avait tiré au niveau du thorax avec une carabine sur son aîné qui est décédé avant l'arrivée des secours. Hier, les différents témoignages qui se sont succédés ont mis en lumière un vieux conflit coutumier et foncier concernant l'héritage d'une maison. Le verdict est attendu dans les minutes qui viennent. Bonne nouvelle pour les Calédoniens qui souhaitent emprunter un vol reliant la Grande Terre aux îles Loyauté. Après deux jours d'annulation en cascade, Air Calédonie annonce la reprise de ses rotations dès aujourd'hui, Nicolas Legrand.
Oui, en cause des soucis techniques qui ont débuté dimanche dernier, en seulement deux jours, près de 600 passagers ont été concernés par ces annulations. La raison, un grand nombre d'arrêts maladie simultanés empêchant les avions de voler faute de personnel navigant. La compagnie aérienne indique qu'elle travaille actuellement au réacheminement des passagers impactés, des passagers se trouvant pour la plupart à Lifou et voulant rejoindre la Grande Terre. Une solution devrait être trouvée dans la journée, notamment grâce au Betticho, avec qui la compagnie aérienne travaille étroitement. Les passagers seront évidemment notifiés par email ou SMS. Air Calédonie encourage également les clients qui le peuvent à reporter leur voyage et à faire connaître les choix de leur régularisation dans les meilleurs délais via un formulaire en ligne à retrouver sur le site internet d'Air Calédonie.
Le séminaire de la maîtrise d'ouvrage s'est ouvert ce matin au centre culturel Chibaou. Plus de 150 acteurs publics et privés sont réunis pour faire le point sur les différentes mesures mises en place depuis le début de l'année dans le cadre de la reconstruction, mais aussi pour faire un focus sur l'ensemble des chantiers reconstruction qui seront lancés par le gouvernement avec l'aide de l'État. Il s'agit également de présenter la stratégie du gouvernement mise en place avec des outils d'aide à la décision, notamment un outil baptisé jumeau numérique. Pételo Sao, membre du gouvernement en charge notamment de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'innovation technologique.
Le jumeau numérique, c'est un projet qui a été pris par le gouvernement de façon à améliorer les prises de décision dans les constructions et dans les investissements. Ça pourrait nous permettre de factualiser en fait les prises de décision et non plus d'arrêter des chantiers en cours de route par changement de majorité, mais de voir dans les faits comment on optimise le patrimoine immobilier de la Nouvelle-Calédonie, voir aussi comment on optimise les réseaux et tout type de réseaux, les flux, la gestion des flux, que ce soit des flux humains, matériels ou immatériels. Et ça permet de sécuriser les investissements sur ce patrimoine immobilier. Et ça permet surtout une prise de décision qui soit éclairée pour les décideurs publics.
Ce séminaire va se terminer ce soir aux alentours de 17h par une grande restitution collective des ateliers organisés tout au long de la journée. Nous reviendrons sur ce séminaire demain matin sur Radio Rythme Bleu. C'est en effet Pételo Sao qui sera notre invité à 7h30. Nous sommes le 19 novembre et c'est le GIS Day. C'est une journée internationale de partage des systèmes d'information géographique. Et des ateliers étaient proposés ce matin aux élèves du collège de Tuban, Léo Fichou.
Oui, c'est déjà la 8e édition sur le territoire de ce JSD, mais c'est surtout la première fois qu'un établissement scolaire accueille cet événement. Un événement qui met en avant la culture de la géographie, l'usage des technologies spatiales. Objectif, rendre la cartographie et ses outils numériques plus concrets, plus ludiques et donc plus accessibles pour les jeunes. Pamela Perrol-Dreton est chargée de mission au vice-rectorat.
L'objectif, c'est que les élèves, avec leurs professeurs, tournent dans différents ateliers pour découvrir un petit peu les outils et être sensibilisés aux usages des systèmes d'information géographique, parce qu'ils permettent ensuite aux décideurs, aux administrations, de collecter des données et de prendre des décisions, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire. Ils découvrent, ils vont avoir des présentations, ils peuvent également manipuler des outils. C'est à la fois de la présentation théorique, mais aussi de la manipulation.
7 ateliers étaient proposés toute la matinée autour de la géomatique, démonstration de drones, présentation de logiciels géographiques comme GeoRep, StoryMap ou encore un atelier sur l'intelligence artificielle, un autre sur l'imprimerie 3D. De quoi satisfaire la curiosité des élèves de la 6e à la 3e.
On est en train de prendre des photos et on est en train de vérifier si l'IA peut
peut identifier qu'est-ce que c'est. Qu'on vient de prendre en photo. C'est pour, je pense, améliorer l'intelligence artificielle.
Là, on va découvrir le GéoRep. C'est une journée sur les systèmes d'information géographique.
On fait des ateliers, on travaille sur nos ordis, on doit prendre en photo plein de trucs. Mais ouais, en vrai, je trouve ça sympa. Comme ça, en plus, ça nous fait sortir, ça nous fait découvrir des trucs numériques et tout. Je trouve, ouais, c'est pas mal.
On nous présente un site pour avoir la carte sur la Nouvelle-Calédonie pour changer les bâtiments sur la carte. Bah, je trouve ça très intéressant de pouvoir avoir un site dédié pour nous sur notre Nouvelle-Calédonie.
Les organisateurs espèrent que cette première édition du JISD dans un collège du territoire pourrait être reconduite l'an prochain, avec l'ambition de voir l'événement s'étendre à d'autres établissements.
C'est donc aujourd'hui le JISD, mais c'est aussi la journée de la jeunesse et des droits de l'enfant. Et pour mettre en avant cette cause, la ville de Dombes organise à la halle Michel Castex depuis ce matin une multitude d'activités ludiques, sportives, éducatives à destination des enfants. L'objectif, c'est bien sûr de les sensibiliser sur leurs droits tout en s'amusant. Jonathan Escand est coordinateur des activités éducatives à la ville de Dombes.
Chaque année, la ville de Dombes crée un événement phare autour de la convention qui est mise en place entre l'UNICEF et l'Éducation nationale. Le but est de mettre en place des interventions culturelles, socio-éducatives et des animations sportives, avec notamment le but de favoriser la compréhension et l'appropriation des droits de l'enfant par les jeunes de Dombes, tout en créant un espace d'échange et de collaboration pour promouvoir un environnement inclusif et respectueux. À travers cette journée, c'est de pouvoir sensibiliser en informant les jeunes sur leurs droits fondamentaux à travers des jeux, mais également aussi des stands de sensibilisation et d'animation, de pouvoir favoriser la participation du public en les encourageant à l'expression à travers donc les activités qui sont proposées sur le site, d'impliquer les établissements scolaires, les familles et les associations locales, et de favoriser les compétences sociales et civiques des participants qui sont présents dans un cadre sécurisant et sécurisé.
Et de nombreuses activités ludiques étaient proposées aux enfants qui ont pu aussi visiter le vaisseau de la science.
On a appris qu'il ne faut pas passer plus de 3 heures sur les écrans. Et on a fait des bracelets pour l'amitié.
J'ai juste fait du vélo et puis du hario.
L'atelier qui faisait montrer que l'enfant ne devait pas regarder trop d'écran, sinon le matin quand il se réveillait, il n'arrivait pas trop à réfléchir et il avait mal à la tête. Et après, du coup, il est parti faire des bracelets, de l'amitié.
Ben, je suis venue chanter l'hymne de Dombes. Oui, j'ai déjà participé avec des activités. Celle où on a pêché les poissons, après celle avec les boissons sucrées. Et je crois que c'est tout.
Et cette journée de la jeunesse et des droits de l'enfant se poursuit jusqu'à 16h à la halle Michel Castex de Dombes. 11h53, une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve pour parler ensuite de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Avec Tricodec, recycler, jouer et gagner. Du 23 octobre au 28 novembre, tentez de gagner un iPhone reconditionné, une nuit au Sheraton et un bon d'achat chez Géant en déposant votre ancien téléphone pour son recyclage chez Tricodec, à la ressourcerie de Nouméa ou chez Sivom VKP à Koné. Plus d'infos sur la page Facebook de Tricodec. Tricodec, ensemble, agissons pour notre île. Règlement disponible sur demande.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin. On commence par l'actualité en métropole et ce sondage IFOP qui n'a pas fini de faire parler. Il confirme la radicalisation progressive des musulmans de France avec une pratique toujours plus rigoriste, notamment chez les jeunes de 15 à 24 ans. Dans ce sondage, 57% des musulmans interrogés placent les lois de la République en dessous des lois de la charia. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Selon l'IFOP, 80% des musulmans se disent religieux. C'est presque deux fois plus que les chrétiens ou les juifs. Le chiffre monte même à 87% chez les musulmans de 15 à 24 ans. L'étude insiste justement sur la pratique des jeunes musulmans. En 35 ans, la fréquentation des mosquées par cette catégorie de pratiquants est ainsi passée de 7 à 40%. Le respect du ramadan a lui bondi de 51 à 83%. Quant au port du voile, une jeune musulmane sur deux est aujourd'hui voilée. C'est trois fois plus qu'il y a 20 ans. La pratique s'intensifie donc, mais l'IFOP montre également une sympathie croissante pour les courants radicaux de l'islam. 38% 40% des musulmans français déclarent par exemple approuver tout ou partie des positions islamistes, un chiffre qui a doublé en 30 ans. L'étude finit par accréditer la thèse d'une contre-société musulmane qui chercherait à organiser sa vie quotidienne en fonction de normes religieuses distinctes, voire opposées à celles de la société majoritaire. Une tendance renforcée par une jeunesse de plus en plus désireuse de revendiquer son identité musulmane face à une société française perçue comme hostile.
La radicalisation des musulmans est la conséquence d'une immigration massive, estiment certaines personnes, et elle ne touche pas que la France. En septembre dernier, plusieurs dizaines de milliers de Britanniques anti-immigrants ont défilé dans les rues de Londres et le gouvernement travailliste semble les avoir entendus puisqu'il annonce un tour de vis migratoire. Il était temps, selon ces Londoniens.
Ils s'habillent différemment. Nous, on se sent presque comme des étrangers. Les femmes sont couvertes avec un niqab. Je suis en colère.
On ne peut pas avoir seulement des jeunes hommes qui viennent au Royaume-Uni. En plus, ils sont logés à l'hôtel alors qu'on a des vétérans de guerre qui sont sans abri. C'est injuste.
Et le gouvernement britannique devrait dévoiler les mesures dans les jours qui viennent. La France doit se mobiliser elle aussi contre le narcotrafic. La nuit dernière ont eu lieu à Marseille les obsèques de Mehdi, le frère d'Amine, un militant engagé dans le trafic de drogue. Mehdi était son jeune frère et il a été abattu. Emmanuel Macron a convoqué une réunion d'urgence à l'Élysée. Il appelle à s'inspirer du combat contre le terrorisme pour lutter contre le fléau de la drogue. Et il a aussi voulu responsabiliser les consommateurs.
Le narcotrafic aujourd'hui pourrit la vie de certains quartiers, tue des enfants, mais il a son épicentre parfois au bout du monde. Et donc en effet, il faut une approche totalement intégrée. Et ce qui a été fait et plutôt réussi, et même réussi dans la lutte contre le terrorisme, c'est ce que nous devons faire. Sur le narcotrafic, permettez-moi d'avoir un dernier mot. Il faut aussi parler des consommateurs. S'il y a du trafic, s'il y a des enfants qui se sont tués, s'il y a des réseaux de criminalité organisée qui prospèrent, c'est qu'à la fin, il doit y avoir des gens qui achètent de la drogue. Et je voudrais que chacun dans nos pays ait bien le sens des responsabilités. Acheter de la cocaïne, du cannabis, ça n'est pas simplement un plaisir qu'on peut s'offrir, il est déjà interdit. C'est de fait être complice et donner du financement à des réseaux de criminalité organisée.
Déclaration du chef de l'État depuis Berlin, où il a achevé une visite officielle. Emmanuel Macron, au cours de cette visite, a pu s'entretenir avec Boualem Sansal, qui est depuis arrivé à Paris. Gracié et libéré de sa prison algérienne mercredi dernier, l'écrivain franco-algérien était depuis à Berlin, puisque c'est la diplomatie allemande qui a arraché sa libération. Son retour à Paris marque donc une nouvelle étape, à tel point que certains parlent déjà de dégel des relations entre Paris et Alger. Mayelen Trémollet pour Europe 1.
Après une rencontre avec l'écrivain franco-algérien, qualifié de moment d'émotion et de joie par l'Élysée, Emmanuel Macron annonce depuis Berlin qu'il est prêt à s'entretenir avec Abdelmadjid Tebboune dès ce week-end, à l'occasion du G20 qui se tiendra en Afrique du Sud.
Je tiens à ce que la France soit respectée et ce qu'elle mène un dialogue sérieux, calme et exigeant. Si ces conditions sont remplies, je suis disponible évidemment à tout échange à mon niveau. Nos équipes diplomatiques, l'équipe resserrée sont en train de travailler à cela pour être plus efficaces sur les grandes questions économiques, sécuritaires, migratoires.
Dans son communiqué saluant la libération de Boualem Sansal, l'Élysée se félicite d'une diplomatie faite, je cite, de respect, de calme et d'exigence. Manière de désavouer la méthode du rapport de force prônée par Bruno Retailleau lors de son passage au ministère de l'Intérieur. Moins de publicité, plus d'efficacité. On souhaite avant tout une coopération sécuritaire et migratoire, explique-t-on dans l'entourage du chef de l'État. De même, au Quai d'Orsay, on prône un dialogue exigeant mais apaisé avec Alger, en rappelant qu'un autre otage d'État, Christophe Glaise, attend son procès en appel en Algérie, prévu le 3 décembre prochain.
Un mot de l'actualité institutionnelle avec la poursuite de l'examen du budget à l'Assemblée nationale. Les députés entament l'examen du volet recettes du projet de loi de finances et c'est plus de 1000 amendements. Ils ont jusqu'à dimanche, avant le vote solennel. Budget qui pourrait bien être rejeté puisque le Bloc central a annoncé son opposition au texte et rejoint donc les autres opposants du Rassemblement national, de la France insoumise ou des écologistes. Aujourd'hui, seul le Parti socialiste semble hésiter. Mais s'il ne votait pas le texte, ça veut dire que l'ensemble des groupes politiques s'y opposeraient. Il est 11h59. On va terminer ce journal après une nouvelle pause par, évidemment, l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annoncelegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Tout le sport en trois lettres, RRB.
Info Mag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et d'abord du tennis, un petit tour et puis s'en va. L'équipe de France s'est inclinée ce matin en quart de finale de la Coupe Davis, Lionel Sabot.
Et pour leur entrée en lice dans le tableau final, les Bleus affrontaient la Belgique. Lors du premier match, Corentin Moutet, 35e au classement ATP, était opposé à Raphaël Collignon, 86e mondial. C'est le Belge qui s'est imposé en 3-7 de 6-7-5-7-5. Et dans la foulée, Arthur Rinderknecht, 29e mondial, n'avait plus le choix. Il fallait s'imposer contre Zizou Berg, 43e à l'ATP. Et une nouvelle fois, c'est le Belge qui s'est imposé. Victoire en 2-7, 6-3, 7-6. La France est donc éliminée. La Belgique affrontera soit l'Italie, soit l'Autriche en demi-finale.
Autre élimination cette nuit, celle de l'équipe de France U17 de football. Les Bleus disputaient les 8e de finale de la Coupe du Monde contre le Brésil. Ils ont malheureusement concédé l'égalisation à la 89e minute de jeu. Un but partout donc à la fin du temps réglementaire et les tricolores ont été éliminés aux tirs au but. En quart de finale, le Brésil affrontera le Maroc, vainqueur du Mali, 3-2. On en vient et on termine d'ailleurs par le sport dans la région avec la Ligue des champions de futsal. La SPTT reste invaincue après son nul 0-0 face au Suva Futsal Club.
Et après une première mi-temps très serrée, on pouvait s'attendre à une seconde période plus ouverte. Malheureusement, malgré la domination des Calédoniens, le score est resté nul et vierge jusqu'au coup de sifflet final. Écoutez le coach de la SPTT, Michel Wassine.
Bon, en somme, c'est un bon match nul, mais bon, après, sur le niveau comptabilité, on aurait voulu faire plus que ça parce qu'on avait le ballon et on n'a pas su mettre le but parce que bah, voilà, 0-0, c'est rare en futsal, mais voilà, ça arrive. Et puis, on n'a pas pu mettre le but qui aurait fait peut-être la différence derrière, qui aurait libéré derrière. Et voilà, c'est quand même. C'est bravo à Souva. Et puis, on va essayer de voir maintenant comment qu'on fait pour, qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite. En fait.
Un bon point donc pour la SPTT qui, après 3 des 5 journées de cette Ligue des Champions, reste à la 2e place, synonyme de qualification pour la grande finale. Pour rappel, les Calédoniens avaient remporté le premier match dimanche 6-1 contre les Salomonais du Matak FC avant de faire un match nul 2-2 lundi contre les Vanuatais du Southern Legends FC et donc ce match nul hier 0-0 contre le Suva Futsal Club. Prochain rendez-vous, ce sera demain midi pour la SPTT. Les joueurs de Michel Wassine affronteront les Néo-Zélandais de White Taco Rapids. Le dernier match de la phase de groupe est prévu vendredi, là aussi à midi, contre les Papous du Golf Comara Football Salle.
Merci beaucoup. Midi et 2 minutes, c'est la fin de ce journal. L'Infomag. Infomag continue jusqu'à 13h avec Thierry. 13h, ce sera l'heure, comme chaque jour, du rappel des principaux titres de l'actualité. Belle journée à tous.
L'actualité ne s'arrête jamais sur rrb.nc.